Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 9 juin 1660, le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. La France et l'Espagne sont en guerre depuis 1635, quand Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche se marient le 9 juin 1660. Cette union est l'aboutissement de la politique menée par Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. Il triomphe ainsi des dérobades du roi d'Espagne Philippe IV, qui a promis sa fille successivement au souverain français et à l'empereur germanique. Louis XIV est à Lyon pour y rencontrer sa cousine et future épouse Marguerite de Savoie, quand il apprend le 2 décembre 1658 que le roi d'Espagne consent enfin à lui accorder la main de l'infante Marie-Thérèse. Le roi Soleil fait grise mine à l'idée de rompre son premier projet nuptial et d'épouser une inconnue. Mazarin est soulagé d'engager sous les meilleurs auspices les négociations de paix avec l'Espagne défaite militairement et économiquement. En mars 1659, Don Juan d'Autriche, fils légitimé de Philippe IV et gouverneur des Pays-Bas, se rend à Paris, accompagné d'une suite espagnole. Il vante à Anne d'Autriche et à Louis XIV la beauté et les qualités de Marie-Thérèse. Un premier traité est signé. 3 mois plus tard, en la capitale française. En juillet 1659, Mazarin prend la route de la frontière espagnole pour rejoindre l'île aux faisans où se négocient les conditions de la paix et celles du mariage. Le montant de la dot de Marie-Thérèse est un point délicat des tractations diplomatiques. En août, la cour de France s'ébranle à son tour. L'Espagne cherche encore à gagner du temps. Luis de Haro, le principal ministre de Philippe IV, oppose de nouvelles objections. Le souverain ibérique malade, mais désireux de remettre sa fille en main propre au roi de France, fait repousser le mariage à l'année suivante. La cour de France se résigne donc à passer l'hiver en Provence, tandis que le duc de Gramont, gouverneur du Béarn et de la Navarre, se rend à Madrid pour solliciter officiellement du roi d'Espagne la main de sa fille. Le traité des Pyrénées est signé le 7 novembre 1659, mais de nouveaux conflits s'ouvrent à propos de ses conditions d'application. Mazarin, en proie à de terribles crises de goutte, ne supporte plus les chicaneries des plénipotentiaires espagnols, le climat de la côte basque, les querelles d'étiquette ou encore les impatiences de Louis XIV qui n'est pas autorisé à écrire à sa promise tant que la dispense pontificale autorisant le mariage entre cousins doublement germains reste en attente. En effet, Philippe IV et Anne d'Autriche sont frères et sœurs et ont épousé respectivement Élisabeth de France et Louis XIII, également frères et sœurs. Philippe IV et Marie-Thérèse quittent Madrid le 15 avril 1660, suivis d'un convoi qui s'étire sur près de 32 kilomètres. Le 11 mai, la cour espagnole s'installe à Saint-Sébastien pour attendre l'issue des négociations qui aboutissent le 1er juin. Le lendemain, Marie-Thérèse renonce solennellement à tout héritage paternel et maternel. Le mariage est célébré le 3 juin 1660 à Fontarabie sur le sol espagnol. Sur le plan strictement juridique, c'est le seul valable. Marie-Thérèse est donc déjà reine de France et de Navarre quand elle arrive à Saint-Jean-de-Luz. En habit gris, brodé d'argent et coiffé d'un chapeau orné d'un énorme diamant, le miroir du Portugal et de la plus grosse perle de la chrétienté, la fameuse pèlerine, Philippe IV est impressionnant. L'église gothique de Fontarabie est décorée de magnifiques tapisseries représentant la légende de Crésus. Une messe grandiose est célébrée par l'évêque de Pampelune, le témoin de Louis XIV, Mgr Joseph Zongo Andelay, évêque de Fréjus, détient la procuration autorisant Louise de Haro à épouser l'infante au nom du roi Soleil. Elle est lue, ainsi que la dispense papale, puis s'effectue l'échange des consentements. À la question « Voulez-vous prendre pour époux Sa Majesté le roi très chrétien ?», Marie-Thérèse, en larmes, tombe à genoux devant son père. La question est réitérée à deux reprises. Le strict protocole de la cour d'Espagne exige que l'infante ne réponde « si » qu'à la troisième demande. Le lendemain, 4 juin 1660, Philippe IV et Anne d'Autriche, qui ne se sont pas rencontrés depuis plus de 40 ans, se retrouvent sur l'île aux Faisans. Retrouvailles graves et émues, marquées par cette phrase prononcée par Anne d'Autriche, « Votre Majesté me pardonnera d'avoir été si bonne Française, je le devais au roi, mon fils et à la France ». 2 jours plus tard, Louis XIV et Philippe IV signent officiellement la paix. Le souverain espagnol dit alors « Après votre majesté, la seule personne qui aurait pu me décider à entreprendre ce voyage, c'est la portion de mon cœur qu'est cet enfant. Je l'ai amené ici afin de vous la donner pour femme. J'ai la confiance que votre majesté la tiendra en l'estime qu'elle mérite. » Le mariage est à nouveau célébré en France, à Saint-Jean-de-Luz, par l'évêque de Bayonne, Mgr Jean d'Ols, en l'église Saint-Jean-Baptiste. La messe nuptiale dure 3 heures. C'est un éclair pour Anne d'Autriche qui exulte de bonheur, une éternité pour Louis XIV qui s'impatiente visiblement, un ultime délai pour Marie-Thérèse. Le mariage du roi de France et de l'infante espagnole ne tient pas toutes ses promesses de paix. Marie-Thérèse, dont Saint-Simon écrit qu'elle est aussi passionnée française que les plus naturels des Français, n'oubliera jamais qu'elle fut l'héritière du trône d'Espagne. En relevant ses droits, Louis XIV entretient leur rêve commun de réunir sur leur tête et sur celle de leurs enfants la double couronne. En 1700, le rêve est réalité. Le duc d'Anjou, leur petit-fils, devient roi d'Espagne sous le patronyme de Philippe V. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire préparée comme chaque semaine par Emmanuel. D'ici là, un détour par la chanson avec Eddie Mitchell qui nous chante « Sur la route de Memphis », un titre de 1976.
Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Costume un peu élimé. passer sur la route de Memphis. 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 Sur la route de
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, aujourd'hui exceptionnellement deux livres. Pour commencer, Blanche et la bonne étoile, c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson et c'est signé Catherine Delors. À Paris, en 1800, tout sépare deux jeunes amants. Elle est l'une des reines de la haute société, lui inspecteur en chef, issu d'un milieu très modeste. Mais le soir de Noël, rue Saint-Nicaise, un attentat mené par une conjuration royaliste vise Bonaparte et fait une dizaine de victimes. Il est chargé de l'affaire et devra déjouer pièges et complots, le tout en tenant compte du redoutable ministre Fouché. Nous visitons ainsi le Paris du consulat avec ses misères et ses ors, ses bordels et ses salons, ses dissidents et ses courtisans. Blanche et la bonne étoile de Catherine Delors s'est publiée aux éditions Héloïse d'Ormesson. Les enfants des Palanges de Louis Mercadier aux éditions Deboré. Yvonne, s'ennuyant dans son Aveyron natal, part s'installer à Paris et vivre avec Samuel, jeune marchand de draps. Mais la guerre éclate et le 16 juillet 1942, Samuel est arrêté et conduit au Veldiv. Elle, son bébé et deux jeunes orphelins juifs qu'elle a pris sous son aile doivent quitter Paris et se cacher. Elle va protéger les petits coûte que coûte, mais doit supporter une vie de fuite, de cachette et de dénonciation. Et cela sur fond de résistance jusqu'à la fin de la guerre. Les enfants des Palanges de Louis Mercadier s'est publié aux éditions Deboré. Ainsi s'achève cette émission Historama. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles narrations historiques. Merci à Thomas qui l'a réalisé. C'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Eddie Mitchell. La dernière séance, c'était en 1977.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des solitaires, à l'école de mon à 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient, premier. Mmh, mmh, mmh.
Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. La salle est vide à pleurer. Mon voisin étend ses bras. Il s'en va boire un café. Un vieux pleureux dans un coin. Son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.